Ce magazine que vous allez suivre est une production de la Panapsie avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de Inades Formation. Vie et avis du monde paysan. Vie et avis du monde paysan. Votre magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale.
Demande et engagement de la Panapsie pour la promotion de l'agriculture familiale dans les politiques agricoles en Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce cinquième numéro de votre magazine Vie et Avis du monde paysan. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Madame Agbassi Adrienne, présidente nationale de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, Panapsie, Monsieur Bla Edmond, gérant de la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche de Côte d'Ivoire, Monsieur Assoko Maye, ingénieur agroéconomiste et chargé d'études et plaidoyer à Inades Formation. Nous aurons également l'intervention du directeur régional des ressources animales et halieutiques de Gagnoa, Monsieur Assi Akosi Lui. Il a été interrogé par le confrère Martial Negbele de Radio Gagnoa. Je suis Wenceslas Yoboué. Bonjour à toutes et à tous et merci de prolonger l'écoute.
Vie et avis. Vie et avis. Du monde paysan.
Bonjour chers invités, je me tourne déjà vers la présidente.
Allez-y. Bonjour.
Bonjour monsieur Bla Edmond.
Bonjour.
Monsieur Assoko Maye, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, dans un premier temps, nous allons donner à nos auditeurs des informations capitales sur les politiques agricoles en Côte d'Ivoire et présenter par la suite les demandes et engagements de la Panapsie visant à promouvoir l'agriculture familiale. Alors, monsieur Assoko, depuis son accession à l'indépendance en août 1960, la Côte d'Ivoire n'a cessé d'élaborer des politiques pour développer son secteur agricole. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter avec quoi tout ça a commencé et comment ces politiques ont évolué jusqu'à présent?
Merci. Alors, pour ne pas être long, on doit dire que jusque dans les années 1985, la Côte d'Ivoire, sur le plan agricole, a fonctionné sur la base des plans quinquennaux généraux qui fixaient, entre autres, les grandes orientations agricoles.
Quand vous parlez de plans quinquennaux, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas, c'est quoi?
Ce sont des plans sur 5 ans.
Ok, d'accord.
Voilà, donc, mais ces plans ont été par la suite remis en cause par les plans d'ajustement structurel au cours de la décennie 90. Et l'État s'est peu à peu retiré de la gestion du monde agricole au profit du secteur privé. Mais aujourd'hui, quand même, les choses évoluent encore et l'État adopte beaucoup plus une approche associée au secteur privé. Mais à partir de 2012, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté de son premier programme national d'investissement agricole sur la période 2010-2015, ce qui a permis quand même des avancées notables.
Merci. Maintenant que nous connaissons l'histoire des politiques agricoles mises en place par l'État de Côte d'Ivoire, je vous invite, fidèles auditeurs, à découvrir avec Bénédicte Wabo les principaux textes qui régissent actuellement le secteur agricole ivoirien.
Le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire est soutenu par deux principaux textes. Loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire, l'OACI, et le Plan national d'investissement agricole, PENIA. La loi d'orientation agricole, l'OACI, adoptée en 2015, est dédiée au traitement de l'ensemble des questions liées à la politique de développement du secteur agricole. Le Plan national d'investissement agricole PENIA, qui est une déclinaison du Plan national de développement PND pour le secteur agricole, est à sa deuxième phase. La première phase a couvert la période de 2012 à 2016. La deuxième phase, encore en vigueur, couvre la période de 2017 à 2025.
C'était à l'instant notre petit point d'information sur les tests de base qui aident désormais la Côte d'Ivoire à développer son monde agricole. Et puisque nos échanges dans ce magazine tournent autour de l'agriculture familiale qui prend aussi en compte les activités du ministère des ressources animales et halieutiques, découvrons ensemble avec le directeur régional des ressources animales et halieutiques de Gagnoa, monsieur Assi Akosi Lui, le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.
Le plan stratégique de développement de l'élevage,
l'aquaculture et de la pêche, c'est la boussole du ministère des ressources animales et halieutiques. Parce que toute action de développement que le ministère pose est basée sur les actions définies préalablement par ce plan. Ainsi dit, ce plan se décline en deux grands axes, qui est l'axe de l'élevage et puis l'axe des ressources halieutiques et la pêche. Pour l'élevage, nous avons l'élevage des gros ruminants, nous avons l'élevage des ovins, l'élevage des porcins, de la volaille et tout ce qui est autre élevage qui accompagne, tels que les élevages en développement, les lapins, les agoutis, les escargots et autres. Et pour ce qui concerne la pêche et l'aquaculture, nous avons la pêche en eau continentale, telles que les lacs, les lagunes, et la pêche en mer. Et concernant l'aquaculture, nous avons l'aquaculture dans les lagunes et puis l'aquaculture dans les étangs. Ce plan est vraiment détaillé sur des axes tels que la santé animale, la nutrition animale, la productivité et tout ceci. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est un plan volumineux. Et ce plan a été adopté par un séminaire en 2014 à l'INSA de Grand Bassam, où tous les acteurs qui concourent à travailler dans le domaine des ressources animales halieutiques étaient invités pour valider toutes ces actions consignées dans ce plan.
C'était à l'instant M. Akoussi, lui, directeur régional des ressources animales et halieutiques de Gagnoa. Il était au micro de notre confrère Martial Negbélé de Radio Gagnoa. Allons à présent découvrir les différentes politiques et approches développées par l'État de Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Je me tourne sur ce point vers M. Assoukoumaï.
Alors, il faudrait dire que le PENIA, le Programme National d'Investissement Agricole de Première Génération, a couvert la période 2010-2015 et il a été prolongé jusqu'en 2016. Et ce PENIA de Première Génération a permis de poser certains fondements institutionnels importants, notamment la loi d'orientation agricole de 2015, la première loi d'orientation en Côte d'Ivoire, ce qui est déjà une grande avancée. Et dans le cas du PENIA de deuxième génération, l'approche proposée par le ministère est axée sur un concept qu'on appelle les agropoles. La vision des agropoles consiste en des investissements agro, sylvo-pastoraux et halieutiques fondés sur le potentiel des territoires et les besoins des populations, devant bénéficier à l'ensemble des acteurs. À cette disposition transversale qu'est le PENIA de deuxième génération, viennent se greffer des programmes sectoriels. Il s'agit notamment de la stratégie nationale de développement du secteur riz, qui part de 2012 à 2020, la stratégie nationale de développement des cultures vivrières autres que le riz, 2013 à 2020, et le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, lui qui part de 2014 à 2020. Alors, il faut dire que le PENIA de deuxième génération a tenu compte du cadre global de mise en œuvre de la politique agricole, notamment la loi d'orientation agricole. Et aussi, pour bien fonctionner, le PENIA 2 prévoit un cadre de concertation interministérielle vu les besoins infrastructurels des différents territoires.
Ce magazine que vous suivez est une production de la PANAFSI avec le soutien du gouvernement basque, du Forum rural mondial et de INADES Formation.
Chers auditeurs, à ce stade de notre rendez-vous de ce jour, nous allons échanger avec Madame Agbassi et Monsieur Bla pour connaître le niveau d'implication des agriculteurs familiaux dans les politiques agricoles sectorielles. Donc, Madame la Présidente.
Bien, merci. Disons que les décisions, les prises de décision, les organisations féminines telles que constituées par rapport à l'agriculture vivrière, nous avons été toujours associés au démarrage des activités de toutes choses, de toutes ces prises d'organisation. Et après, nous avons...
Ces prises de décision, vous
voulez dire. Ces prises de décision. Et puis après, nous allons à la validation, mais à l'application.
Si je comprends bien, au départ, vous êtes consulté. Et en ce qui concerne la prise des décisions finales, vous n'êtes plus associé, c'est
oui,
ça?
Oui, les décisions finales ne sont vraiment pas trop associées par rapport à la mise en place même du PENIA. Nous avons été consultés. Disons, nous faisons partie des ébauches de projets, mais la mise en place, nous sommes un peu, je dirais, laissés pour compte. Donc, ça pose un problème d'harmonisation des idées. Parce que ce que les décideurs prennent comme... ils prennent appui pour pouvoir mettre des documents ou bien même des décisions en place, mais l'application nous sont un peu mis à l'écart.
Monsieur Bla Edmond, on parle ici du niveau d'implication des agriculteurs familiaux dans tout ce qu'il y a comme politique agricole sectorielle. Qu'est-ce que vous faites exactement avec les autorités dans ce cadre-là?
Au niveau du développement du secteur agricole d'une manière générale, en particulier du secteur pêche et même le vivrier, toutes les décisions politiques que le gouvernement met en place, c'est d'ailleurs l'émanation de tous les acteurs du secteur. Mais lorsque les idées sont regroupées, à la validation, ce sont les organisations interprofessionnelles qui sont représentées. Si vous êtes dans un secteur d'activité que vous n'êtes pas organisé à l'interprofessionnel, alors c'est évident que vos décisions ne seront pas prises en compte. C'est ce qui s'est passé au niveau du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Et à ce niveau, le comité national qui a été mis en place, qui parle de l'application de toutes ces décisions arrêtées, nous, au niveau de la pêche, d'une manière générale, nous ne sommes pas encore organisés en interprofessionnel. Ce qui fait que nous n'avons pas pris part à ces décisions. À son application, c'est le secrétariat technique qui est mise en place. Au niveau du secrétariat technique, en disant les techniciens qui y participent, donc les producteurs eux-mêmes ne sont pas associés. Le secteur pêche qu'on soit organisé en interprofessionnel ne sont pas associés. Ce qui fait que ça crée un cassure au niveau des exécutions et les opérateurs eux-mêmes. Le problème est que vie ne sont pas directement traduits au niveau des décideurs. Parce que la formulation des engagements, il ne les compte pas. Ça, c'est ce qui crée un peu de problèmes. Et cela se voit au niveau du fonctionnement des barrages qu'ils ont construits à propos d'Oumé et à Grand Laou. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme se doit parce que les mesures d'accompagnement ne sont pas faites telles que ça a été dit au début. Les exploitants, ceux qui travaillent, ne prennent pas part aux différentes décisions pour que nous puissions corriger les pays. Ils ne reçoivent plus de poissons, et quand les poissons sont reçus, alors les clients sont difficiles à venir parce que la promotion aussi ne suit pas.
On va dire qu'il y a des limites, pour conclure, on va dire qu'il y a des limites en ce qui concerne les prises de décision où vous n'êtes pas totalement associé. D'accord, nous évoluons dans ce magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale et c'est le moment pour nous de parler des demandes et engagements de la PANAFSI, Madame Agbassi. Vous allez prendre à nouveau la parole pour nous parler des thématiques sur lesquelles portent justement ces demandes.
Cette thématique porte sur le foncier rural. Comme vous le savez, tout ce qui entoure sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, nous avons le financement pour l'agriculture, le financement public pour l'agriculture. Nous avons la sécurité sociale pour les agriculteurs, les agricultrices et les agriculteurs familiaux. Et nous avons l'acte uniforme de l'OADA relatif aux droits des sociétés coopératives. Et nous avons aussi la participation, le partenariat public-privé dans le secteur agricole.
Je vais me tourner maintenant vers M. Asoko. Elle a parlé des thématiques liées à ces demandes. Et quelles sont clairement ces demandes?
Alors, pour les demandes de la PANAFSI, au niveau du foncier rural, nous demandons à l'État de prendre en charge totalement les frais d'obtention du certificat foncier et du titre foncier pour les détenteurs de droits coutumiers. Et aussi, il faudrait, toujours au niveau du foncier rural, laisser le libre choix aux populations de constituer elles-mêmes leur comité villageois de gestion foncière rurale, CVGFR, selon l'organisation socio-culturelle des communautés. Concernant l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés coopératives, nous demandons à l'État de renforcer l'information et la sensibilisation des acteurs afin que ceux-ci s'approprient le processus d'immatriculation et qu'ils soient éclairés sur le choix de la forme de société coopérative à adopter, soit civile ou commerciale, et les exigences fiscales associées. Demandons à l'État aussi de vérifier les déclarations des sociétés coopératives en création pour limiter la prolifération des sociétés coopératives non viables. Aussi, sur la question de la recherche participative, un point qui est très important, il faut renforcer les relations et le travail entre les centres de recherche et les organisations paysannes.
Monsieur Blas, vous avez quelque chose à ajouter toujours concernant les demandes?
Nous avons quelque chose à ajouter pour ce qui concerne les partenariats publics-privés. Alors, nous demandons que l'État veille sur les conditions de contractualisation des organisations agricoles et les producteurs industriels. Et puis, nous demandons aussi qu'il y ait des sanctions pour décourager les agro-industries qui n'auraient pas respecté les engagements qui ont été pris. Et un autre point, il y a le financement de l'agriculture. Je crois qu'en 2003, à Maputo, ça a été dit que 10% du budget national soit revenu au secteur agricole. Alors, il faut que cela aussi soit appliqué. C'est un plaidoyer fort. Parce que si c'est appliqué, ça pourra nous permettre au moins de relancer la productivité et mener la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance alimentaire. Actuellement, au niveau de ce secteur, 30% normalement devait revenir à la pêche, à l'aquaculture et à l'élevage. Et si c'est fait, pour les projections qui ont été en place, je crois que d'ici 2020, nous pouvons contribuer au niveau de la pêche à 6,8%. Ce qu'on peut ajouter encore, il y a la sécurité sociale. Aujourd'hui, nos producteurs paysans comme pêcheurs ne sont pas protégés. Et au niveau de la panacée, nous disons que il faut qu'on voit le côté de l'assurance santé, l'assurance accident individuel, assurance décès, l'allocation familiale et puis assurance retraite.
Merci Monsieur Blas et à Monsieur Asoko également pour ces demandes de la PANAFSI adressées aux décideurs. Je me tourne maintenant, nous sommes à la fin pratiquement de notre émission, je me tourne à nouveau vers Madame Agbassi. Vous allez nous dire les engagements pris par la PANAFSI pour contribuer à l'amélioration socio-économique et professionnelle des agriculteurs familiaux.
Oui, je voulais dire tout de suite que la PANAFSI s'engage à contribuer avec l'aide de l'État à l'élaboration et au succès de la mise en œuvre du plan d'action national de la décennie de l'agriculture familiale et avec la FAO et le FIDA. Nous sommes aussi engagés à suivre la mise en œuvre des mesures politiques prises dans le secteur agricole et à organiser avec l'appui annuellement à des événements de célébration dans l'agriculture familiale pour faire reconnaître que la place de l'agriculture est primordiale dans l'État du Côte d'Ivoire.
Vie et avis du monde paysan.
C'est sur ces engagements de la PANAFSI que prend fin ce cinquième et dernier numéro de votre magazine Vie et Avis du Monde Paysan. Merci à tous les acteurs de l'agriculture familiale qui ont été avec nous depuis le premier numéro. Celui d'aujourd'hui a eu pour thème demande et engagement de la PANAFSI pour la promotion de l'agriculture familiale dans les politiques agricoles en Côte d'Ivoire, avec pour intervenant Madame Agbassi Adrienne, présidente nationale de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAFSI, Monsieur Blas Edmond, gérant de la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche de Côte d'Ivoire, et Monsieur Asoko Maé, ingénieur agroéconomiste et chargé d'études et plaidoyer à INADES Formation, ainsi que Monsieur Assi Akossi, lui, directeur régional des ressources animales et halieutiques de Gagnoa. Merci à vous vous, fidèles auditeurs, d'avoir été des nôtres durant tout ce moment. Nous espérons vous retrouver à l'avenir avec d'autres émissions dédiées au monde agricole. D'ici là, portez-vous bien.
Vie et avis du monde paysan. Vie et avis du monde paysan. Votre magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale. Ce magazine que vous venez de suivre est une production de la PANAFSI avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de INADES Formation.